Entre deux lavages de mains,
on va ouvrir certains robinets.
Vincent Desureaux commente l'actualité avec vous. Cube Radio.
Un été pas comme les autres.
Alors, j'ai commencé l'émission en vous donnant ces chiffres tant attendus du Québec, la situation sur le dossier du coronavirus. On sait qu'on nous avait laissé dans le noir pour quelques jours. On avait hâte de voir la tendance qu'allaient prendre les chiffres au Québec, surtout qu'on parle beaucoup des États-Unis. Et on sait, on a l'impression qu'on se relâche un peu au Québec. Alors, on regardait, surveillait de près les courbes. Finalement, je vous le disais, c'est à peu près stable. Donc, 70 à 80 cas à peu près par jour dans les quatre derniers jours. Est-ce que ça rassure les experts? Ben, on va aller directement parler à l'un d'entre eux que vous connaissez bien, urgentologue et chef de l'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal, Alain Vadeboncœur, qui est en ligne. Docteur Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suppose que vous attendiez quand même beaucoup ces chiffres-là, voir quelle tendance prenaient les chiffres au Québec.
Oui, ben effectivement, le fait de les avoir moins souvent, ça nous rend plus attentifs. Puis effectivement, la tendance semble se maintenir. Il faut quand même souligner qu'il y a encore des cas, puis il y a encore des décès. Hein. On parle de seulement, entre guillemets, une dizaine de décès par jour, là, mais ben c'est quand même 10 décès. Et bon, j'ai pas vu d'où venaient ces décès-là. C'est davantage des cas de CHSLD, des personnes plus jeunes, etc. Mais bon, ça, on voit que c'est quand même relativement sous contrôle, tout en étant toujours actif.
C'est ça, parce que ça demeure quand même actif. Je disais, c'est quand même plutôt stable, parce que ça fait là un bon deux semaines qu'on est autour de ça. Là, il me semble 60 à 100 cas par jour. Donc, cette menace-là, elle est toujours là, clairement. Vous pensez quoi de la situation au Québec, dans le sens, monsieur et madame tout le monde, qui, et on le voit, là, on le ressent, c'est quand même pas de retour à une vie normale, mais on est quand même pas si loin, surtout dans plusieurs des régions du Québec.
Ouais, ben faut comprendre quand même que encore là, je comprends. T'sais, en région, puis à Montréal, c'est quand même pas la même chose qui se passe là. Il semble y avoir toujours très très peu de cas dans les régions, surtout les plus éloignées. Fait que la question, c'est est-ce que la vie est redevenue normale ou non. Ben c'est sûr que les gens ont probablement décroché un peu, ils sont rassurés par ça. Peut-être un peu trop, surtout à Montréal. Et le point, c'est que ben le virus, on le voit, continue de circuler. Et on a des voisins qui sont semblent avoir beaucoup de problèmes. Et donc, faut pas penser que c'est derrière nous. Il n'y a rien qui peut nous permettre de penser qu'il ne se passera rien dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il faut rester prudent. J'ai l'impression que les gens ont peut-être un peu trop décroché avec les relatives bonnes nouvelles là, quant aux mesures, quant à l'inquiétude qu'ils pouvaient avoir.
Pensez-vous quand même que le masque, pour ceux qui ne le portent pas, il est quand même pas très loin pour beaucoup de Québécois, puis on surveille un peu les chiffres, puis garde au besoin, si on voit qu'il y a une remontée, rapidement, on va le revoir davantage dans les rues?
Ben moi je pense que ça tient beaucoup à ça. On le voit, écoute, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on est. Je me suis promené un peu à Montréal. C'est très variable hein, selon les commerces, selon les endroits. Ce que je déplore un peu, c'est que dans les moyens de transport en commun, il semble pas très porté. Il est là, mais pas tant que ça. Et donc, on prend un peu à la légère cet outil-là. Moi, je pense qu'au moins dans les endroits confinés, les endroits comme le transport en commun, les autobus, ça devrait être... je pense que ça devrait être obligatoire. On l'a mentionné. Puis la majorité des gens pensent ça aussi. Mais bon, ça ne l'est pas. Et donc, c'est laissé un peu au bon vouloir. C'est sûr qu'on est dans une période de relative accalmie. Ça a moins de conséquences, mais bon... Il reste encore 10 décès par jour qui sont liés au virus.
Hein. Ouais, je me souviens dans les premiers bilans où il y avait des décès, à deux décès, on frissonnait. Là, donc, il faut quand même se rappeler que chacun de ces décès-là, c'est une vie humaine. Je vais vous poser, avant de parler de la situation américaine, je vais en jaser un peu avec vous. Un mot sur, parce que j'admire beaucoup votre travail sur les réseaux sociaux où vous faites. Je sais que c'est pas facile là, pour être dans ce milieu-là aussi un peu les réseaux sociaux, faire face à tout ce qui peut se dire sur les masques, sur le gouvernement ou autre, vous avez une bonne colonne là, pour faire face parfois à des folies. Êtes-vous un peu découragé de je dirais pas des Québécois, parce que ça semble pas être unique au Québec, mais un peu de la race humaine ces temps-ci que vous avez à confronter constamment des gens qui croient dans n'importe quelle sottise?
Ben, je pense qu'il y a deux choses. Il faut faire vraiment faire la part des choses. J'ai l'impression que la majorité des gens sont tout à fait raisonnables et qu'il y a des gens, pour différentes raisons, là, ça leur appartient, qui soit sont convaincus d'autre chose que ce que la science nous dit, soit carrément prennent des attitudes extrêmement agressives qui n'ont pas besoin de l'aide. Fait que moi, je commence à faire un petit peu, si on veut, le ménage là-dedans. Il y a des gens qui, clairement, sont là pour... Ils sont pas là pour discuter. En fait, ils sont là pour soit faire valoir le point d'accord, mais agresser. Et dans ce temps-là, moi, j'ai tendance maintenant à les écarter un petit peu parce que je vois pas l'intérêt de s'assiner avec quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas là pour discuter. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont prêts à discuter, prêts à entendre des points, puis qui sont prêts à argumenter. Et puis moi, je recule jamais devant une question ou un point qui est amené. Puis je pense que c'est important de maintenir un niveau de discussion avec les gens qui sont sceptiques ou qui ont des doutes. Puis, tu sais, on peut amener des évidences à ça. Fait que, tu sais, il y a différents niveaux, mais je pense que la majorité des gens, c'est du monde raisonnable, là, qui ont du bon sens, puis qui ont finalement leur opinion est à peu près semblable à ce que la santé publique nous dit, que la science nous dit, c'est-à-dire que bon, il faut maintenir cette distance, il faut porter le masque quand c'est nécessaire, etc. Fait que je suis loin d'être découragé, mais bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui emmènent large.
Vous avez pas pensé vous retirer là, de Twitter à un certain moment, dire ok, là c'est assez?
Ah non, je vois pas. Ben c'est sûr que par moment c'est un petit peu agaçant, mais en même temps, comme je vous dis, je pense que la vaste majorité des interactions que je peux avoir, que d'autres ont, c'est bien correct. Puis, tu sais, moi, discuter, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont extrêmement agressifs sans raison, puis ils attaquent vraiment sans fondement. Puis ça, honnêtement, ça m'intéresse moins maintenant. Au début, j'ai trouvé amusant, mais là, j'ai tendance à les mettre de côté un petit peu. Puis il y a des moyens très simples pour le faire. Donc, je m'en sers un peu plus et ça fait du bien.
Un mot sur la situation américaine. On surveillait beaucoup la Floride dans les derniers jours. 5000 nouveaux cas, du moins c'est le chiffre que je voyais tantôt. Donc un peu moins que dans les derniers jours, mais déjà quand même beaucoup plus que ce qu'ils ont connu il y a à peine 10 jours et plus. Là. Qu'est-ce que ça vous dit de la situation présentement aux États-Unis? Évidemment, ça varie beaucoup d'un État à l'autre, mais on parle beaucoup du Texas, de la Floride. Est-ce qu'ils sont, dans le trouble?
Ben, il y a plusieurs États, je pense qu'il y en a à peu près 5 là, qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Il faut d'abord regarder les États-Unis dans son ensemble et on voit que les courbes augmentent. Hein. Ils ont eu des records de cas quand même dans les derniers jours là par rapport à, mettons, la courbe avait quand même baissé un peu. Fait que visiblement, c'est un des rares pays où la courbe, après avoir commencé à baisser, remonte. Puis ça tient à d'autres foyers, des nouveaux foyers qui s'activent, comme la Floride, puis il y en a d'autres. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, c'est embêtant, c'est inquiétant. Je dirais que ce qui est assez clair aussi, c'est que c'est des gens plus jeunes qui semblent être infectés. Les moyennes d'âge ont diminué. Ce qui fait qu'en tout cas, pour l'instant, les courbes de mortalité n'ont pas tout à fait suivi le même chemin. Ce qui est en soi, bon, un peu rassurant, mais il peut soit y avoir un délai, ou c'est parce qu'effectivement, c'est des personnes plus jeunes qui sont infectées. Puis à ce moment-là, ben, c'est un peu moins... L'effet des cas, en fait, est un peu moins embêtant, mais si on regarde globalement, le tableau est pas terrible. Là. C'est vraiment un des rares pays dans le monde qui avait contrôlé jusqu'à un certain point et qui se remet à empirer de façon importante.
Parce que à moins que le virus ait muté, sachant à quel point c'est contagieux, on peut s'imaginer quand même facilement que là, c'est les jeunes qui l'ont parce qu'ils sont sortis à la plage faire la fête. Je veux dire, ils vont se rendre chez leurs parents, chez leurs grands-parents. À un moment donné, ça va atteindre les couches plus âgées de la société.
Ben il y a ça, oui c'est vrai, mais tu sais il y a personne qui pense que en déconfinant, dans des régions où le virus est encore actif, les cas vont continuer à diminuer. Là, inévitablement la transmission augmente. Fait que la question c'est quoi la conséquence. Bon, tant mieux entre guillemets c'est des gens un peu plus jeunes, mais tu sais faut pas juste regarder les décès. Là j'ai vu des endroits où les soins intensifs par exemple étaient pleins. On parlait de certaines régions du Texas, tout ça. Donc les patients aux soins intensifs, même s'ils décèdent pas au bout du compte, c'est des patients beaucoup plus jeunes, là. Et donc qui vont fortement écoper là, avec la maladie, qui vont peut-être même avoir des séquelles. Et donc, il faut pas négliger ça. Quand les soins intensifs sont sous tension, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est pas seulement la courbe des décès qui est importante. Puis dans certains États, ben, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, les impacts, on les voit un peu là. On va les voir plus loin par une augmentation de mortalité. On va le savoir dans 2-3 semaines peut-être, mais c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Puis c'est nos voisins.
En parlant justement en terminant de la situation au Québec, mais dans les urgences, parce qu'évidemment, on a vu beaucoup de gens qui ont attendu peut-être pas mal avant d'aller chez le médecin en période de pandémie, mais là, on se sent peut-être un peu plus confiant, des gens qui sont malades, qui ont des blessures et autres. Donc, évidemment, les vacances aussi, pour le peu que le personnel de la santé pourra en prendre. Est-ce que la situation est très tendue présentement?
Ben, disons que la congestion a augmenté pas mal. Si on regarde, vous parlez des blessés, je sais que des hôpitaux, c'est Simon-Pierre Landry qui décrivait ça comme à Sainte-Agathe, où effectivement les gens qui sortent de la ville, ben, se blessent, hein, ont des activités. Et donc, l'activité normale des urgences en été, où il y a plus de blessures en région notamment, ben, ça paraît aussi. Puis, il faut pas négliger le fait aussi qu'ici, il y a de la congestion, c'est parce qu'il y a des patients sur civière hospitalisés qui attendent des lits. Et en reprenant les activités à l'hôpital, parce que c'est ça qui se passe en ce moment, ben, on rend les lits un peu moins disponible également. Ça fait qu'il y a un paquet de facteurs, mais c'est clair qu'il y a eu des augmentations et des courbes de congestion qui sont un peu, je dirais, qui sont assez embêtantes. Là, on est lundi, puis c'est férié dans le réseau, fait que la congestion est moins pire, mettons, qu'il y a 3-4 jours, mais on voit qu'au milieu de la semaine, à chaque fois, ça monte, puis ça a dépassé le 100% par moment. Donc, c'est embêtant, parce que là, c'est plus des urgences normales, c'est des urgences toutes transformées, COVID. On a perdu, des centaines de civières pour simplement réorganiser les urgences. Fait que la capacité de faire face à ça est moins grande qu'avant. Là, faut falloir faire très attention à ça.
Raison de plus pour être prudent en vacances. Et monsieur Vadeboncœur, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Un grand plaisir.
Au revoir, Alain Vadeboncœur, donc urgentologue et chef de l'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et effectivement, Twitter, très, très actif là-dessus et courageusement parce que des fois, fait face à la bêtise humaine, mais le fait toujours avec beaucoup de brillance. On s'arrête quelques